petite enquête patrimoniale, présentée par Martine Balou.
Alors, chers auditeurs, je vais commencer d'abord par vous souhaiter une bonne et heureuse année, une très bonne santé. Et puis aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer un sujet un peu léger et puis d'actualité qui fait corps aussi à l'histoire de notre ville, qui est la gastronomie. La gastronomie sur peut-être deux chapitres. Donc, la gastronomie en ce moment, ce serait, on en parle beaucoup, l'éloge du pâté de Périgueux. Alors, derrière un produit gastronomique comme ceci, il y a le mot Périgueux. Et puis, on part à l'aventure en détective à la recherche de cette gastronomie du pâté de Périgueux. On va voir qu'il servait aussi de monnaie d'échange et qu'il était un ambassadeur à la cour des rois et qu'il est allé à la table des princes et qu'aujourd'hui, on le retrouve sur notre table, mais d'une autre manière, d'une façon plus simpliste. Alors voilà, on se plonge dans l'histoire. Et pour cela, on va remonter à l'époque du Moyen-Âge. On va dresser un paysage, on va se dire qu'on est devant Saint-Front. Saint-Front, c'était la collégiale à l'époque, ce n'était pas la cathédrale. On va se trouver sur un grand espace qu'aujourd'hui on appelle le greffe et qui autrefois s'appelait le gras. Mais rien à voir avec le marché au gras qui a lieu en ce moment. C'était simplement parce qu'il y avait des degrés, des gradibus, c'est-à-dire des escaliers qui descendaient vers le pont de Tournepiche et vers la rivière. Mais restons dans notre sujet. Et je voulais évoquer des personnages. D'abord, Marie Rollet. Marie, IE, on aurait pu penser que c'était une femme, puisque la gastronomie, dit-on, c'est une tradition, c'est une transmission de nos grands-mères. Eh bien non, Marie Rollet était un homme. C'était le plus ancien artisan fabricant de pâté, le pâtissier, en fait, à l'époque, puisqu'on le nommait ainsi, que l'on connaisse, puisqu'il fallait en fait deux personnages à l'époque pour fabriquer ce que nous aimons encore aujourd'hui déguster, c'est-à-dire le pâté de Périgueux. Il fallait l'artisan pâtissier qui donc fabriquait la pâte et le charcutier, et non pas le charcutier, je ne me trompe pas, qui devait travailler la chair. C'est-à-dire que ce n'était pas le boucher, il ne coupait pas la viande, mais lui, il faisait une alchimie. Et ce n'était pas d'ailleurs toujours de la viande, et même au départ, pas du tout qu'il y avait dans nos fameux petits pâtés de Périgueux. Donc on va remonter un petit peu ces temps-là et vous dire que ce Marie Rollet a exercé donc au début du XVe siècle. Sa boutique touchait le cimetière des pauvres, et oui, de la place du Gras, dont j'évoquais quelques éléments tout à l'heure, c'est-à-dire l'avenue Daumesnil, aujourd'hui le greffe. Et un acte en date du 10 décembre 1407, passé entre le chapitre, c'est-à-dire l'assemblée des chanoines de Saint-Front, donc de la collégiale des ecclésiastiques, et entre le maire Arnaud de Bernabé, et non pas Barnabé, qui avait sa chapelle, que l'on peut voir encore en quelques vestiges quand on rentre par la porte d'entrée principale, c'est-à-dire à l'ouest de la cathédrale, et aussi entre les consuls. Les consuls, qui étaient les consuls? Les consuls, c'était, on va dire, les adjoints, les conseillers municipaux pour se retrouver aujourd'hui dans la modernité avec le maire. Tout cela est stipulé, on va dire, en grand témoignage dans un acte, bien sûr qui n'est pas signé, on ne signe pas à l'époque, mais qui est scellé. Il y a des sceaux de chacun, le sceau donc du chapitre de Saint-Front et le sceau des consul de la ville, du maire de la ville à l'époque, Arnaud de Bernabé, avec bien une apposition aussi de scellé d'Arnaud de Bernabé, et de Marie Rollet. Alors, les archives municipales, parce que tout ça est très sérieux, mentionnent un serment prêté le 15 novembre 1498 par les pâtissiers de Périgueux. Donc, vous avez bien compris, qui était à l'origine de cette fabrication de ce pâté de Périgueux. Devant un autre maire, le temps a passé, qui s'appelait Jean Chassarel, et toujours devant le consulat, qui était situé où à l'époque ? Eh bien, à l'époque, la municipalité était placée, ça tombe bien, là où vous faites vos courses le samedi et le mercredi, et même tous les jours si vous en avez envie, les halles de Périgueux correspondent à l'ancien consulat, place du Coderre. Et on n'autorisait pas n'importe qui à pratiquer une profession aussi considérée. Le postulant devait s'engager à exercer son métier, écoutez bien, fidèlement, en employant que de la chair bonne et vendable dans sa fabrication, stipulée dans les textes, fidèlement. C'est important, puisque la fidélité de mes citoyens fait ma force et la devise depuis 1240 de Périgueux, lors du traité d'union entre la cité, l'ancienne ville gallo-romaine inféodée par les comtes du Périgord, et la nouvelle ville qui venait de naître au Moyen-Âge, le Puy-Saint-Front, fidèlement, restera vraiment le leitmotiv. Alors à l'époque, le pâté se présentait comme un récipient, tout simplement, mesdames et messieurs, en pâte brisée, que l'on bourrait de viandes diverses. Et quand on dit de la viande, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'époque, c'est pas forcément de la viande au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est de la volaille, c'est du gibier, du poisson, et beaucoup d'anguilles en particulier, que l'on faisait cuire au four pour le manger froid aussi, ou même chaud, comme un entremets. Le pâtissier était alors l'artisan qui, avec la pâte que le cuisinier ou le charcutier dont je vous parlais tout à l'heure, remplissait de sa préparation et donc fabriquait ses pâtés. Progressivement, le cuisinier réalisa à la fois la pâte et la garniture et devient lui-même, entre par contre le XVIIe et le XVIIIe siècle, maître pâtissier, maître artisan. C'est un titre qui va ensuite perdurer et que quelquefois est oublié. On dit mais pourquoi maître artisan ? Eh bien c'est dès le début du XVIIe siècle. Et au XVIe et XVIIe siècle, à Périgueux, l'activité des pâtissiers prospérait dans ce que l'on appelle le faubourg de Taillefer. Taillefer, cette magnifique rue Taillefer, qui est une artère importante, qui rejoint justement qui est entre les deux villes et qui va rejoindre la ligne des boulevards et la Clôtre. Donc, c'était là un petit peu le haut du pavé médiéval où il y avait des artisans, il y avait des métiers raffinés, des orfèvres, des peintres en bannière, des métiers très délicats et donc aussi liés à la gastronomie. Et en 1543, on note un Pierre Bertin, alors ça c'est intéressant, qui est ancêtre du futur contrôleur général des finances de Louis XV, ministre Henri Bertin, tenait l'enseigne de l'hôtellerie Saint-Pierre. Alors il faut vous dire, pour faire être en détective un petit peu du patrimoine, que justement notre futur personnage qui apparaît donc à l'époque de Louis XV et de Louis XIV d'ailleurs, eh bien, les deux personnages, on avait Henri Bertin et ensuite, il y a eu ce fameux Bertin qui devient ministre de Louis XV, oublié au XIXe siècle par la société, très jalouse de lui. Eh bien, sa demeure a disparu, mais nous avons des documents très intéressant, notamment à la Société historique archéologique du Périgord, qui représente sa demeure natale, qui était à l'angle de la rue Aubergerie et de la rue Taillefert, qui correspond aujourd'hui, pour être dans le contemporain, à la boutique Etam. Voilà. Alors ça, c'est important parce que, justement, cette famille Bertin a joué un grand rôle. Mais revenons à nos maîtres pâtissiers, à notre histoire. Il faut savoir qu'il y avait d'autres, évidemment, d'autres fameux pâtissiers, dont les Villerignier, qui vont perpétuer la véritable dynastie en se faisant connaître comme très habile et en fabriquant ce qui va être la renommée à Périgueux et qui va parcourir plus tard, on le verra, l'Europe, c'est le fameux pâté de perdrix rouge qui va servir les intérêts de la ville de Périgueux. Car ils étaient offerts en cadeau dans le but de se ménager des protecteurs ou bien de disposer des hommes d'affaires. Et ils valurent à son descendant, de ce Pierre Villerignier, pour le reciter en 1737, le titre très amusant de Sieur de Lagatine, pâtissier du roi, avec un Y. Et depuis la libération de Périgueux de l'intrusion protestante, c'est-à-dire le 26 juillet 1581, le jour de la Sainte-Anne, exactement, eh bien les consuls, vous vous rappelez, où se trouvait le consulat, c'est-à-dire où se situent aujourd'hui les halles actuelles, offraient un banquet à la population où les pâtés avaient bonne place. Peut-être une idée d'animation finalement, peut-être ça reviendrait un peu plus cher aujourd'hui, mais on imaginerait sur cette place du Caudère une grande tablée médiévale où l'on goûterait des petites pépites du pâté de Périgueux qui peut être aussi aujourd'hui, tout en gardant sa tradition, revisité. Alors les archives municipales indiquent en outre qu'en 1609, c'est donc très précis, un dîner et un souper destiné aux habitants, le jour des élections consulaires, occasionnèrent une dépense considérable de 83 livres et 5 sols. Les vivres ayant malgré tout manqué, ont dû aller quérir en toute hâte des pâtés chez tous les pâtissiers de la ville. Une véritable réquisition, trouve-t-on. Et au XVIIIe siècle, eh bien, tout va être quelque part bouleversé dans le bon sens. Un raffinement supplémentaire, la truffe, perle rare au cœur des chênaies, va enrichir les productions. Les maîtres pâtissiers périgourdins surent toujours bien tenir leur serment. Le pâté décrit comme l'artisan des festins. C'est important, dans les écrits que l'on retrouve, était célèbre dans l'Europe gourmande, très d'actualité aujourd'hui, l'Europe, et où justement la gastronomie est inscrite aussi au patrimoine mondial de l'humanité, patrimoine immatériel, c'est très important. Les pâtissiers, à l'époque, l'expédièrent à de nombreuses personnalités. On va rêver et revisiter l'histoire, c'est les ducs de Mouchy et de Richelieu. Le ministre Bertin, vous vous rappelez, déjà son ancêtre fabriquait des pâtés. Le président du Parlement de Bordeaux, l'intendant de Tourny, très important, cet intendant de Guyenne de Tourny qui va être à l'origine du tracé de nos magnifiques allées. Dès lors, l'envoi des fameux pâtés de Périgueux pour obtenir des faveurs des hommes influents dans l'espoir de garantir l'issue des procès en cours devint une pratique courante. Les pâtés du Périgord aussi, notamment de Périgueux, lit-on dans les écrits. Il n'y avait pas forcément que Périgueux, mais Périgueux tenait vraiment là le haut du pavé en raison de son importance déjà depuis l'époque médiévale. Les racines de l'histoire et de la tradition, c'est toujours très important. Eh bien, ces pâtés vont devenir, au XVIIIe siècle, le plus cher, lit-on, des entremets et vont constituer donc un cadeau nobiliaire réputé. Et c'est alors là que tout va exploser et que des noms vont apparaître, des noms qui sont souvent oubliés à Périgueux. Un nom comme André Noël et comme Antoine Courtois, qui sont deux célèbres périgourdins qui vont donc être à l'origine de cette expansion et de ce rayonnement des pâtés à l'étranger et notamment donc à la cour du roi de Prusse. C'est grâce à André Noël, qui est né à Périgueux en 1726, que furent reconnus, attention, internationalement les chefs-d'œuvre culinaires des pâtissiers de Périgueux. Devenu maître cuisinier du roi de Prusse, Frédéric II, dit le Grand, en 1755, il lui révéla les délices de la table gourmande, de la table périgourdine, au point même qu'il va inventer un plat qui est fait à base donc d'ingrédients, on va dire, sur l'élément essentiel extrêmement simple, à base d'un chou, un chou farci, un simple chou. Pas n'importe quel chou, par contre, le chou dit de Milan, pour le choix donc de ce légume et qu'il va baptiser la bombe de Sardanapale. Ah ben là, ça va faire une bombe. Il le présente, eh bien, dans un plat recouvert donc de cette fameuse couvercle bombé. Et là, il fait, mais alors vraiment un grand événement avec cela, car tous les convives, et il y avait là ce jour-là, le fameux Casanova qu'il va écrire d'ailleurs au sujet de la gastronomie périgourdine, qui en est ébahi. Comme quoi, à partir de choses simples, de choses vraies, en conservant la fidélité aussi des choix, des ingrédients et des recettes, en étant inventif et créatif, eh bien, on peut bouleverser l'ordre des choses et faire entrer la gastronomie pour l'instant de Périgueux dans l'histoire. Le roi était enthousiaste, ainsi que ses convives. Et on atteste dans la correspondance de Frédéric le Grand, plutôt c'est la correspondance de Frédéric le Grand qui atteste dès 1743 que lui-même, ce monarque, était friand de tous ces pâtés et de tout ce qui comportait pâté, un régal partagé, disait-il, entre princes et rois. Il aimait les truffes et en faisait venir tout particulièrement et tous les ans de Périgueux, et en particulier ceux d'Antoine Courtois, dont il faisait un cas particulier. Antoine Courtois, dont on aura l'occasion de vous reparler un petit peu plus tard, dans un autre épisode, un autre chapitre. À la prochaine fois.
C'était Martine Balou,
directrice du patrimoine, service Ville d'Art et d'Histoire, Ville de Périgueux.